VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma sous pression croissante suite à la publication d'un rapport sur la corruption mettant en lumière l'étroite collusion du chef de l'État avec une richissime famille d'hommes d'affaires indiens. Cet énième scandale alimente les appels à la démission du président Zuma. Salwa Jafari.
Zuma must go! Zuma must go!
Zuma doit partir. C'est aux yeux de beaucoup la pire semaine que le président sud-africain ait vécue depuis sa prise de fonction. Le document publié mercredi met en évidence l'interférence des Gupta à la tête d'un puissant empire industriel et médiatique dans les affaires d'État, jusque dans la nomination des ministres, le tout avec la complicité du président qui ne cache pas son amitié avec la famille d'origine indienne. Devant ce dernier scandale, l'opposition a réitéré ses appels à la démission du président Zuma, dont le mandat expire en 2019 et annonce le dépôt d'une motion de défiance pour le 10 novembre. Cette motion a cependant peu de chances de passer, le Parlement étant dominé par l'ANC au pouvoir. Mais ce soutien s'effrite depuis le revers historique du parti de la lutte anti-apartheid au municipal d'août dernier.
Afrique centrale maintenant, RCA, l'ONU a tiré les leçons des récentes violences en Centrafrique, a assuré Yann Eliasson, son vice-secrétaire général en visite à Bangui, où il a promis un plan national pour le relèvement du pays, toujours menacé par les groupes armés. Le haut responsable onusien a terminé ce jeudi une visite de 3 jours en RCA, qui a eu lieu après la fin officielle de l'opération militaire française Sangari, programmée lundi, et avant la conférence des donateurs prévue à Bruxelles le 17 novembre. Le mois d'octobre a été particulièrement violent, a reconnu Yann Eliasson hier devant les députés centrafricains dans une allusion aux affrontements qui ont fait 37 morts à Kagamandoro, 26 morts dont 6 gendarmes à Bambari et une dizaine de morts dans la capitale Bangui. « Nous ferons tout ce qui est en nos capacités pour prévenir de telles atrocités », a souligné le haut responsable onusien, alors que le manque de réactivité des casques bleus de la MINUSCA, la mission onusienne sur place, a été mis en cause à Kagamandoro. Au Gabon, plusieurs personnes ont été interpellées ce jeudi matin au siège du journal gabonais d'opposition Écho du Nord dans la capitale Libreville. Des hommes armés en civil sont entrés dans la salle de rédaction alors que les journalistes bouclaient l'édition à paraître demain vendredi, a indiqué à l'AFP l'un de leurs collègues, Wilfried Kombinziengi, qui dit avoir réussi à s'échapper. 9 personnes ont été interpellées pour être auditionnées dans le cadre d'une enquête, a déclaré pour sa part le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Alain-Claude Billy Binze. Selon lui, l'enquête porte sur un article paru mercredi mentionnant l'imminence d'un coup d'État militaire après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. L'article titrait sur l'arrestation du général Célestin Mbinga, patron de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, DGDI, les services de renseignement également chargés des titres de séjour délivrés aux étrangers. Une arrestation démentie par d'autres médias. Guinée équatoriale, les autorités judiciaires à Genève, en Suisse, ont annoncé ce jeudi avoir procédé cette semaine au séquestre de 11 véhicules de luxe appartenant à Théodorine Obiang, fils du président de Guinée équatoriale, que les autorités suisses soupçonnent de blanchiment d'argent. Un porte-parole du procureur de Genève, Vincent Desrois, a fait état de l'ouverture d'une procédure pénale dirigée contre Théodorine Obiang, confirmant des informations parues dans la revue suisse L'Hebdo. Théodorine Obiang y est accusée de blanchiment d'argent. La justice française s'intéresse aussi de près à Théodorine Obiang, accusée de s'être bâti indûment en France un patrimoine considérable. Il sera jugé à partir du 2 janvier à Paris dans l'affaire des biens mal acquis. Âgé de 47 ans et promu vice-président de Guinée équatoriale fin juin par son père Théodore Obiang Nguema, au pouvoir depuis 37 ans, Théodorine Obiang est poursuivie pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Afrique de l'Ouest, les prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire auront lieu le 18 décembre. Bruno Koné, porte-parole du gouvernement, l'a annoncé ce jeudi, John Lindon.
Cette date a été proposée par la Commission électorale indépendante. Le 18 décembre, les bureaux de vote ouvriront à 8 heures pour se fermer à 18 heures, heure locale. Bruno Conné a également précisé que les dates de la campagne et d'autres éléments seront donnés ultérieurement. Ces législatives seront à tour unique, le candidat arrivant en tête étant élu député. La coalition au pouvoir dispose actuellement d'une majorité écrasante, soit 90% des 250 députés. Le Front populaire ivoirien, ancien parti au pouvoir, avait boycotté les législatives de 2011. Cette fois-ci, l'opposition qui a boycotté le référendum dimanche dernier a décidé de participer aux législatives. Pascal Affine-Guessant, président du principal parti d'opposition, le FPI, a réitéré que la bataille à venir, c'est de mobiliser pour conquérir l'Assemblée nationale.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Éthiopie, le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn a procédé à un remaniement de son gouvernement dans un contexte particulièrement tendu entre contestation inédite par son ampleur de l'ethnie Oromo et l'état d'urgence décrété le 9 octobre. Tsige Chiferao, journaliste qui a longtemps couvert l'Éthiopie, fait le point sur ce remaniement et sa signification au micro d'Anastasie Toudiesh.
Ce remaniement donc intervient un an après la mise en place d'un gouvernement précédent suite aux résultats des élections l'an passé. La différence, c'est que ce gouvernement est beaucoup plus varié au niveau ethnique. Il compte notamment 9 nouveaux ministres d'origine d'ethnie Oromo, ainsi que des ministres d'autres ethnies. Au total, ce sont 30 ministres, seulement 15 sont réellement nouveaux. Les 15 autres ont été déplacés vers de nouvelles fonctions au sein du gouvernement.
Pensez-vous que ce remaniement suffira à apaiser les tensions ?
La coalition au pouvoir depuis 25 ans n'a jamais été confrontée à une telle colère. La population croit, le mécontentement de la population est vraiment évident, c'est quelque chose qui est indéniable. Ce gouvernement s'est retrouvé confronté soit à une réaction forte, ce qu'il a essayé de faire et qui en fait n'a pas porté ses fruits. Il y a aussi un certain mécontentement au niveau de l'armée, donc il me paraît judicieux pour le gouvernement en tout cas de ne pas prendre de mesures radicales qui pourraient ensuite lui revenir en pleine figure, si je peux me permettre. Et puis, à côté de ça, donc ils essaient de trouver une solution à l'amiable. Pour le court terme, pour le long terme, c'est difficile à savoir. Ce gouvernement est un gouvernement de technocrates. Il semblerait que le gouvernement ait l'intention d'avoir des ministres capables de faire leur travail, qui n'ont pas été promus parce qu'ils sont membres du parti. C'est à voir. Si ce gouvernement parvient à répondre aux demandes du public, notamment dans les différentes provinces du pays, peut-être qu'à ce moment-là, cela pourra porter ses fruits. Mais c'est difficile, en tout cas pour le moment, de dire que ce sera suffisant.
Vous avez parlé de colère tout à l'heure, et cette colère s'est notamment exprimée et défoulée sur les biens étrangers. Est-ce qu'il y a des chances pour que les choses s'apaisent de ce côté-là aussi ?
Pour l'instant, c'est très difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la raison pour laquelle la population a exprimé cette colère envers les biens étrangers, c'est parce que des terres ont été louées à ces investisseurs étrangers, terres qui appartenaient ou en tout cas qui étaient cultivées par les paysans locaux et qui, à ce que je sache, n'ont pas forcément été compensées pour ces pertes.
Tsige Chiferao, journaliste qui a longtemps couvert l'Éthiopie. Crise migratoire, au moins 239 personnes sont mortes ou sont portées disparues après deux nouveaux naufrages de migrants mercredi au large de la Libye. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Un groupe de migrants, dont une vingtaine de femmes et 6 enfants, est parti hier de Libye, mais leur bateau a pris l'eau au bout de quelques heures de navigation. Selon Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM, l'Organisation internationale des Nations unies pour les migrations. La plupart de ces migrants se sont noyés avant l'arrivée des secours. Seulement 27 personnes ont survécu. Un second naufrage a eu lieu toujours au large de la Libye. Deux survivantes ont témoigné que leur bateau transportait environ 130 personnes. 4220 personnes sont mortes en Méditerranée en 2016. Près de 28 000 migrants sont arrivés en Italie pour le seul mois d'octobre, ce qui monte à 158 000, le nombre de personnes qui ont atteint les rives de l'Europe cette année.
Et pour terminer, en Irak, Abu Bakr al-Baghdadi, chef du groupe État islamique, est sorti de son silence. Il a appelé ses troupes à tenir Mossoul, la grande métropole du nord du pays, face à l'armée irakienne, au lieu de se replier dans la honte. C'est son premier message depuis plus d'un an.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.